Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce magazine régional à la bonne heure, avec aujourd'hui une émission spéciale autour du mal-être paysan. Pour cela donc nous avons dans notre studio Lorraine Prunet, porte-parole de la Confédération Paysanne 04, Fanny Fontaine, animatrice de Solidarité Paysan Provence-Alpes, et Coralie Gauthier, animatrice de la Confédération Paysanne 04. Voilà, donc bienvenue à toutes les trois. Et ben, je vais vous demander de vous présenter et de parler de vos structures respectives. On commence par Fanny Fontaine.
Bonjour, donc je suis Fanny Fontaine, je travaille pour l'association Solidarité Paysan depuis 11 ans maintenant. Solidarité Paysan, c'est une association qui fait partie d'un réseau national qui existe depuis plus de 30 ans et dont l'objet est l'accompagnement des agriculteurs en difficulté.
Très bien. À vos côtés, Lorraine Prunet, porte-parole de la Confédération Paysanne. C'est aussi quelque chose qui existe depuis longtemps.
Oui, bonjour. Oui, la Confédération Paysanne, elle existe depuis bientôt 40 ans, un petit peu moins dans le 04, mais ça fait quand même longtemps qu'elle est présente. Et moi, je suis porte-parole actuellement de la Confédération Paysanne 04. Je suis élue chambre d'agriculture également. Et sinon, j'ai des chèvres laitières sur la commune de Fort-Calquier. Voilà.
Merci. Et Coralie Gauthier.
Bonjour, moi je suis donc Coralie Gauthier, je suis animatrice de la Confédération Paysanne depuis 7 ans dans le 04.
Merci. Alors ce qui vous amène aujourd'hui, c'est une lettre adressée aux agriculteurs qui veut nous en parler plus en détail. L'objectif de cette lettre est...
Le point de départ, c'est évidemment et malheureusement le suicide d'un agriculteur. Non pas que, et c'est malheureusement pas exceptionnel. Si on regarde les chiffres au niveau national, c'est un agriculteur et demi ou deux agriculteurs tous les trois jours, par trois jours qui met fin à ses jours. Et on a eu donc un cas sur le département au printemps. Et après ça, on s'est dit qu'il serait bon de renouveler les recommandations et essayer de les faire surtout circuler par des canaux les plus diversifiés possibles, parce que c'est un peu toujours pareil. Il y a des gens, ils sont très en lien avec les réseaux sociaux, les mails, le voisinage, et puis il y en a d'autres qui le sont moins. Et on s'est dit qu'en rédigeant ce courrier, et donc en le faisant co-signer par un maximum de structures, on pouvait rappeler que le mal-être, il peut exister évidemment. Les maladies, il y a des maladies, il y a des moments juste aussi des moments de passage à vide. Ça, c'est humain, mais que pour autant, dans ces moments-là, il faut pas rester seul et que on peut être accompagné. Qu'il y a tout un tas de structures qui peuvent accompagner, qu'il y a une écoute qui existe, qu'il y a même des gens dans le département qui ont été formés, notamment à travers le réseau Sentinelle. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et que voilà, il faut juste tendre la main et il y aura quelqu'un pour la saisir. Et on espère évidemment que ce courrier il arrivera sur le bureau de tout le monde ou dans les boîtes mail ou sur les écrans de tout le monde, et pour pas laisser un moment de solitude prendre le dessus et pousser à un acte qui est assez terrible évidemment.
Qui veut nous informer de ce que contient cette lettre ? Donc, c'est des organismes, des structures à contacter. Est-ce que vous pouvez nous la lire, peut-être ?
Alors, on va la lire. Face au mal-être, ne restez pas seul. Les temps sont durs pour l'agriculture et pour celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Depuis plusieurs années, les crises agricoles se succèdent et se ressemblent, à la différence près qu'elles affaiblissent davantage nos agriculteurs et agricultrices. Toutes les filières ont connu ou connaissent encore des difficultés structurelles, qu'elles soient économiques, techniques, agronomiques ou climatiques. À ces situations professionnelles peuvent s'ajouter des difficultés personnelles, familiales ou sociales, mais également des problèmes de santé, de stress ou d'isolement. Ainsi, les causes du mal-être agricole sont multiples. Elles peuvent être passagères, mais également s'inscrire sur des temps longs. Pour autant, le mal-être agricole n'est pas une fatalité et des solutions existent pour vous aider. Alors, face au mal-être, ne restez pas seul. Donc en fait, il existe plusieurs dispositifs qui existent. Il y a notamment le dispositif Agri-Écoute pour échanger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un psychologue de manière anonyme et confidentielle. Donc le numéro d'Agri-Écoute, c'est le 09 69 39 29 19. 09 69 39 29 19. Donc c'est un numéro qu'on peut appeler n'importe quand et pour n'importe quelle difficulté. Il y a aussi bien sûr le 3114, hein, qui est un numéro d'écoute national de prévention du suicide, qui est aussi accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis après, il y a des structures un peu plus locales qu'on peut solliciter sur des difficultés qui sont un petit peu moins passagères ou un petit peu plus prononcées, on va dire. Donc il y a effectivement la cellule AgriDif qui est... Que Fanny pourra peut-être mieux présenter puisqu'elle Solidarité Paysan en fait partie. Il y a l'association Solidarité Paysan aussi. Et puis bien sûr, il y a toutes les structures agricoles du département, que ce soit la Chambre d'agriculture, n'importe quel syndicat, des associations que vous pouvez solliciter en cas de difficulté. Et il y a aussi le réseau Sentinelle, qui sont des personnes bénévoles qui sont formées à la prévention du mal-être et de la crise suicidaire en milieu agricole. Donc ce sont des personnes qui peuvent... être à même aussi de vous donner des contacts pour aller mieux et pour améliorer votre situation. Fanny, est-ce que tu veux prendre le relais sur ce que vous faites à Solidarité Paysan et peut-être Agri-Dif aussi ?
Oui, alors pour ce qui est de la cellule Agri-Dif, c'est un dispositif national qui a été décliné dans chaque département. Donc nous, au sein de la cellule, sur le département 04, on est un ensemble d'acteurs en lien avec des agriculteurs qui peuvent rencontrer des difficultés. Donc dans ces cellules, il y a la MSA, la Chambre d'agriculture, la DDT, des banques, des techniciens qui interviennent au niveau de l'élevage, par exemple, les finances publiques, qui j'oublie. Ah oui, Serre France, centre de gestion. Et en fait, l'idée de ces cellules, donc, c'est une fois qu'on a recueilli le consentement de la personne à ce que sa situation soit évoquée, on réfléchit entre partenaires aux situations qui peuvent être proposées et aux choses qu'on peut mettre en place pour aider cet agriculteur à sortir de ses difficultés.
Ce sont souvent des difficultés financières.
Pas uniquement, non. En fait, nous, en tout cas, pour ce qui est des personnes qui font appel à Solidarité Paysan, on est en train de travailler effectivement sur une typologie des difficultés rencontrées, mais on a vraiment un grand panel et la plupart du temps, c'est un ensemble de difficultés. Les gens viennent pas vers nous seulement pour un problème économique, ils viennent parce qu'il y a eu un accident de vie, parce qu'il y a des problèmes juridiques, parce qu'il y a eu des conflits avec le voisin, parce qu'entre associés ça se passe mal, parce qu'ils ont eu un pépin de santé. Enfin voilà, souvent c'est un ensemble de difficultés qui créent des situations de mal-être et qui amènent les gens à faire appel à nous et à ce que leur situation soit présentée en cellule Agri-Dif notamment.
Alors, est-ce que justement vous avez constaté que certains agriculteurs n'hésitent pas à faire appel dans des cas de difficulté ou c'est encore difficile, chacun reste à essayer de trouver des solutions tout seul?
Alors nous,
Il y a quand même une fierté.
Oui, il y a une fierté. C'est difficile d'admettre qu'on a besoin d'aide. Après, nous, un des principes de notre association, c'est qu'on intervient seulement si la personne fait appel à nous. Donc, on ne va pas aller toquer à la porte en disant « Voilà, votre voisin m'a dit que vous alliez pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?» Donc, effectivement, moi, j'ai la vision uniquement des personnes qui font la démarche de venir demander de l'aide. Mais ça représente effectivement pas beaucoup de... Enfin, un pourcentage, j'imagine, assez faible de tous les agriculteurs qui sont réellement en difficulté.
Et ce qu'on constate, enfin ce que moi je constate en tant qu'animatrice syndicale, c'est que souvent quand on nous sollicite pour une difficulté, ben, il y en a d'autres autour effectivement, comme tu disais Fanny, mais surtout c'est que les gens attendent d'être vraiment au pied du mur pour nous solliciter, alors que parfois si on avait connaissance de certaines situations plus tôt, on pourrait ne pas en arriver à des situations catastrophiques, quoi. Donc quand vous avez une difficulté, n'attendez pas trop pour solliciter les structures qui peuvent vous accompagner, parce que plus tôt la situation est prise, plus tôt ce sera facile et rapide de la résoudre, quoi. Et on constate aussi qu'il y a quand même pas mal de difficultés administratives. Et notamment, il y a quand même une aide qui est en train d'être mise en place, qui s'appelle l'aide au répit administratif, qui est un partenariat entre la MSA et la Chambre d'agriculture et qui permet de financer du temps administratif pour vous sur la ferme avec du personnel de la Chambre d'agriculture pour vous aider à mettre à jour vos documents, faire les démarches nécessaires, etc. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter la Chambre d'agriculture pour ça.
C'est un service gratuit ?
C'est un service qui est financé par la MSA, donc c'est gratuit pour l'agriculteur a priori, ou l'agricultrice.
Lorraine.
Ouais. Il y a pas mal de dispositifs sur fonds MSA, donc la Mutualité Sociale Agricole, le régime social des agriculteurs et des salariés de la production agricole. Ils ne sont pas forcément toujours bien connus, mais la MSA, elle a pour elle, à mon avis, d'avoir un réseau de travailleurs sociaux, assistants, assistantes sociales, sociaux sur le territoire, qui, eux, les connaissent très bien. Et en fait aussi, avant que ça aille mal, des fois, on a des petits passages à vide, et je pense que les premières sollicitations, il faudrait presque qu'elles viennent là, sans honte, sans se dire bah, « là, je suis fatiguée, en fait, là, j'y arrive plus, là, j'arrive plus à réfléchir, là, il y a trop de choses à faire, là, j'aurais besoin de partir un petit peu, je peux pas ». Et derrière, je dirais presque une simple alerte va vraiment permettre d'actionner quelque chose qui va se mettre en place. La MSA va prendre le relais. La MSA, elle peut aussi se mettre en relation, par exemple, avec le service de remplacement. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir financer un petit temps d'arrêt, de vacances, mettons, mettons une semaine, et en lien avec le service de remplacement, qui, lui, va peut-être pouvoir se débrouiller de trouver quelqu'un qui pourra prendre le relais sur la ferme. Il y a vraiment aussi, je dirais, tout un tas pas de palliatifs, mais il y a des mesures qu'on peut actionner rapidement dès que ça ne va pas. Et effectivement, pas forcément attendre que ce soit la cata, et où c'est pas irréversible, mais évidemment, de derrière remonter la pente, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que les choses se seront accumulées. Parce que des fois, quand ça va pas, effectivement, on prend du retard sur la ferme, on prend aussi du retard en termes administratifs, et on en a du boulot administratif, de papier à rendre, de compte à rendre, de tout un tas de choses à faire. Voilà, je pense que la MSA, là, on sort des élections MSA, donc sur lesquelles on a renouvelé un conseil d'administration, mais aussi tout un tas d'agriculteurs qui vont mailler le territoire à travers les cantons. Et je pense que c'est encore une autre porte d'entrée, voilà, mais ces gens-là peuvent aussi faire le relais avec la MSA et des dispositifs qui existent et qui sont peut-être malheureusement pas suffisamment connus de tous.
Vous-même, donc, vous êtes chevrière, c'est comme ça qu'on dit. Vous avez eu aussi des difficultés, comme tout le monde, pour trouver des temps de vacances.
Oui, on disait, nos métiers, ils sont imbriqués souvent dans nos vies de famille. Moi, je vois, on est une petite ferme. On travaille en vente directe, donc c'est-à-dire qu'on traite les chèvres, on transforme le lait. On assure la commercialisation, moi j'assure l'administratif derrière, donc toute la partie comptable, et puis après tout ce que je dois aux organismes. En même temps, j'ai une fille qui a grandi, certes, qui a 13 ans, mais qui a besoin d'une présence. Je suis en trait tous les jours de l'année, parce que je suis sur un système un petit peu particulier avec mes chèvres. Donc les week-ends, il y en a guère. Comment on arrive à ménager des temps là-dedans, on se dit, on fait une vraie coupure. Et c'est vrai que moi, ça fait quelques années maintenant que j'arrive à faire appel, notamment au service de remplacement, parce que pour moi, ça a été un vrai soulagement d'arriver à ménager quelques jours dans l'été, ce qui n'était pas du tout possible il y a 5-6 ans en arrière. Pareil, de ménager quelques jours autour de Noël. Mais on peut vite être débordé quand on est au plein de la saison. Je pense à des maraîchers qui sont sur leurs exploitations, là où ça y est, les légumes d'été arrivent, ça tourne à plein, il faut écouler tout ça. Comment on arrive à concilier cette vie professionnelle, cette vie de famille, ces nécessaires temps de repos? Moi, j'ai au surplus un engagement syndical, donc que j'aime aussi donner, parce que c'est aussi ce qui donne du sens à mon métier au quotidien, mais aussi dégager du temps pour ça. C'est un peu comment on fait rentrer des carrés dans des ronds ou l'inverse, et de ne pas se laisser déborder, parce qu'à un moment, des fois, par exemple, j'ai eu un gros coup de fatigue au printemps l'année dernière, j'ai eu un souci, et c'était le début de la saison, et ça a été compliqué. Faut être humble, alors c'est vraiment pas un jugement, mais c'est d'être humble devant nos difficultés et de se dire que l'aide, c'est le plus grand bien qui puisse nous arriver, en fait. On n'arrivera pas toujours tout à résoudre seul, et c'était le pourquoi de ce courrier, de répéter encore, de se dire vraiment que ça circule un maximum, pouvoir tendre la main.
Et vous parlez donc de ce service de remplacement, et ça, il faut aussi connaître, la personne qui va vous remplacer. Il faut qu'elle fasse un stage chez vous, peut-être en amont. Comment ça se passe ?
Alors le service de remplacement, il est la personne qui le gère est située à Chambre d'agriculture. Alors pareil, c'est vraiment une fille qui est formidable, qui a connaissance de tout un tas de clés, de choses pareilles à activer pour dire mais ça ira bien. Et puis même si on demande un remplacement tardivement, qui va réussir à faire en sorte que les papiers, pareil, ça tout rentre dans les clous et qu'on puisse être remplacé en bonne et due forme. C'est-à-dire que la personne qui vient ait une feuille de paye dans les temps. Alors oui, effectivement, il y a deux solutions. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des personnes qui sont inscrites auprès du service de remplacement, donc qui se propose en tant que salarié, mais à l'inverse, l'exploitant agricole, le paysan, l'agriculteur, peut venir avec la personne qui connaît éventuellement la ferme, en disant bah, c'est cette personne-là qui va me remplacer et les papiers seront faits en conséquence. Alors effectivement, la deuxième solution que je viens d'évoquer est souvent la plus facile parce que ça veut dire que l'agriculteur est déjà en lien avec la personne qui potentiellement peut le remplacer, donc peut déjà avoir fait une forme de tuilage pour le remplacement, avoir expliqué un certain nombre de choses sur la ferme. Voilà, je pense que on peut trouver. Si cette solution-là ne marche pas, normalement, le service de remplacement est un peu un vivier et il faut pouvoir aller piocher dedans.
Et il faut réagir avant d'être trop fatigué, j'ai envie de dire. C'est ça, trouver le bon moment, parce que quand on est vraiment épuisé, on ne peut plus rien faire.
Bah oui, il y a de l'épuisement professionnel. On est vraiment sur des métiers, je pense, où l'épuisement professionnel, c'est pas un mot vain, malheureusement. Et après, on disait ça au démarrage, c'est souvent la conjonction de plusieurs éléments. C'est-à-dire, va y avoir un pépin dans l'entourage, un problème sur les animaux. Là, on peut parler de ce qui se passe en Savoie avec la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. C'est une maladie qui vient d'arriver en France, donc on la trouve là pour les premières fois en Savoie et en Haute-Savoie, elle arrive d'Italie a priori, et provenant plutôt avant des Balkans, du Maghreb. C'est une maladie qu'on connaît un petit peu, mais pas très bien non plus, et donc là le protocole c'est abattage total des troupeaux. Il peut y avoir une bête malade, deux bêtes malades, on abat les bêtes malades, mais la suite du protocole c'est abattage total du troupeau sans savoir si le troupeau est porteur, pas porteur, est-ce qu'il sera en mesure de se défendre ? C'est encore un autre sujet, mais en tout cas, c'est aussi dire, moi, là, je pense à ces collègues-là, quand demain, aujourd'hui, vous avez votre ferme qui est peuplée, donc c'est une maladie qui touche les bovins, j'ai peut-être pas précisé. Quand aujourd'hui, vous avez, 50, 80 vaches à la traite et vous vous dites que ben, après-demain, en fait, il n'y aura plus personne, que l'État blessera vite, que c'est les bêtes avec qui vous vivez depuis 10 ans, que peut-être c'est des souches sur lesquelles de gènes que peut-être vos parents, vos grands-parents ou n'importe qui d'autre, mais en tout cas, on travaille sur la rusticité de ces bêtes, sur leur capacité à faire du lait, à être adaptées au lieu où elles sont depuis des générations et que demain, eh ben, on fout tout dehors, ça part à l'écarissage. Moi, je me dit, il y a quel suivi ? Et je sais qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Pour le moment, il n'y a pas, de manière tangible, quelque chose qui est mis en place. C'est-à-dire qu'on fait venir les services vétos, on pique, ça part à l'écarissage. Et en fait, aujourd'hui, c'est les paysans qui assurent le suivi de soutien des autres paysans. Et ça, je trouve ça mais dramatique. Moi, là, je vous en parle, ça me serre la gorge. Je me dis, moi, demain, on me dégage mes chefs de la bergerie, je pense que je ne m'en mettrai pas. Et voilà, donc, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a plein de choses. Et c'est jamais une. Ça peut être effectivement une difficulté économique passagère parce qu'on a une difficulté de commercialisation, un problème en lait. Et bien, il arrive qu'il y ait des problèmes sur le lait parce qu'on a détecté une cochonnerie dans le lait. Donc, interruption. Donc, derrière, il n'y a plus de commercialisation. Il n'y a plus de fonds qui rentrent. Sur les laitiers, il y a une partie des laitiers qui sont en fait en activité qu'une partie de l'année, notamment sur les ovins et les caprins parce qu'on est cyclé sur le temps des bêtes. Donc, il y a du lait de février-mars jusqu'à novembre. Et ça veut dire aussi qu'il faut avoir rentré suffisamment d'argent pour couvrir l'hiver. Donc, tout un tas de choses comme ça. Et voilà, encore une fois, c'est la conjonction de plusieurs choses. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça va déborder ? Des fois, c'est pas grand-chose qui fait déborder la coupe. Mais malheureusement, quand on en est là, la bascule, elle a lieu. Et c'est là que remonter la pente, c'est plus compliqué. Parce que finalement, on a empilé tout un tas de couches de difficultés. Et avoir la tête froide, et ça, c'est encore une fois, c'est pas simple du tout. Et c'est pour ça que c'est un peu intéressant, important d'être épaulé, qu'il y ait aussi du monde sur le territoire qui puisse repérer ça, qu'on ait tout un tas d'organismes. Tout le monde n'est pas forcément syndiqué, on s'en fout. Il y en a d'autres qui vont être adhérents à des associations, pareil, de développement sur le territoire. Il faut que tout le monde soit un peu outillé, un peu l'œil aiguisé pour détecter ces difficultés qui pourraient poindre. On en évoque, nous, des fois, au sein du syndicat. On sait que ça ne va pas forcément passer par nous, mais d'être vigilant, en fait, c'est une vigilance un peu permanente.
Donc, un métier dur que l'agriculture, maraîchers, enfin, les éleveurs, mais malgré tout, c'est un métier de passion, souvent...
Je pense que ça reste un métier de passion. Moi, j'ai fait autre chose avant dans ma vie. À 30 ans, je me suis dit que j'avais rien à faire là où j'étais et j'ai basculé. Ça fait 15 ans que j'ai des chèvres. J'ai un engagement syndical parce que pour moi, c'est aussi ça qui a du sens. Je pense que c'est un métier qui laisse à la fois, qui est très, très prenant, comme j'expliquais tout à l'heure, où il n'y a pas forcément de week-end, où il n'y a pas forcément de frontières nettes entre la vie professionnelle, la vie familiale. Et à la fois, c'est aussi, je pense, on est tous à se lever le matin pour ça, parce qu'on a notre liberté d'être avec nos animaux, d'être dans nos champs, d'être au contact de la nature. Ce qui fait craindre aussi, c'est... Il y a beaucoup de choses, moi, que je crains. C'est, on voit que les difficultés liées notamment au changement climatique sont quand même de plus en plus présentes. Là où... Je prends l'exemple de viticulteurs qui disaient qu'à l'époque, il y avait peut-être une année sur cinq où il y avait un problème. Aujourd'hui, on est quasiment à deux années sur trois. Une fois, c'est un gel précoce. Une fois, ça va être un excès de chaleur qui va... provoquer complètement une fonte de raisin l'été. Ce changement-là, il va vraiment... J'ai peur que ça occasionne encore plus de dommages et de difficultés. On est aussi face à une paperasserie de beaucoup de rentes de compte. Alors c'est vrai, hein, évidemment, on touche des subventions, ça nous permet en partie de vivre pour un certain nombre d'agriculteurs. C'est là comme ça que la PAC a été pensée et conçue. Mais au fil des années, cette PAC, elle s'est aussi beaucoup... densifié. Aujourd'hui, il faut être un expert pour remplir sa déclaration PAC. Mais derrière aussi, quand on nous demande, il y a des contrôles, il faut aussi être un expert pour rendre des comptes, pour fournir les papiers. Et cette charge, je pense que des fois, on peut vite être submergé, ouais, clairement. Et voilà, ce qui fait que moi, je verrais plutôt des feux qui passent à l'orange que des feux qui passent au vert, malheureusement. Mmh. Même si oui, ça reste un métier de passion, ça c'est certain.
Donc il y a le métier de sentinelle, c'est un métier ? Non, c'est pas un métier, c'est du bénévolat. Si vous voulez nous dire quelques mots sur comment on devient sentinelle, qui devient sentinelle et à quoi ça sert ?
Alors je ne suis pas experte des sentinelles, mais je peux essayer. Donc il y a des formations qui sont organisées par la MSA. Je parle sous couvert de... ta validation, Coralie. Ouverte, je pense, à toute personne qui peut être en contact avec des agriculteurs. Formation gratuite, un peu partout dans les territoires. Et le but est de sensibiliser, enfin, de nous former à détecter les crises suicidaires. Donc, on va pas être. On va pas apprendre à comment. Disons, au moment de la crise suicidaire, la meilleure chose à faire, c'est de passer le relais. Et c'est en fait ça qu'on apprend dans les formations Sentinelles, détecter et orienter afin que la personne soit prise en charge et que la crise puisse être contenue. En fait.
Mais comment on détecte ? On va voir les agriculteurs, les...
Souvent, ce sont les personnes qui nous sollicitent, en fait, de par nos fonctions, nos métiers ou du contact qu'on peut avoir avec elles, qui vont nous dire « Ah ben là, ça va pas à cause de ci ou à cause de ça ». Et c'est à nous de voir si juste ces passagers, ça va pas et quand même moralement, ça va, même s'il y a une difficulté. Ou plutôt de se dire « Là, pour moi, il y a un vrai risque, d'une part, de mal-être et d'autre part, de potentiellement de crise suicidaire ». Et donc, on peut aussi, et c'est plutôt... là, notre rôle aussi, c'est de, quand quelqu'un nous fait part d'une difficulté, si la personne est d'accord, c'est de la signaler par exemple à la MSA pour qu'elle puisse prendre le relais et aider à régler cette difficulté-là. En tant que sentinelle, c'est plutôt ça notre rôle. Des cas de vraiment de... Moi, j'ai eu une personne une fois qui m'a dit « ça va pas » et je lui ai dit « bon, alors clairement, dans cette formation, on va nous apprendre à poser la question frontalement. Est-ce que tu penses à te suicider ?» Et en fait... comme ça, on a tendance à se dire, je ne vais pas aborder le sujet, ça va lui donner des idées. Mais vraiment, dans cette formation, on nous dit, non, il faut poser la question frontalement. Et en fonction de la réponse, voir si la personne, elle s'est déjà fait un scénario. Et là, vraiment, il faut, s'il y a une urgence vitale absolue, tout de suite, il faut appeler le 15. Et sinon, il faut essayer de l'aiguiller vers un service qui peut l'accompagner sur la durée. Et ce que je voulais ajouter aussi là-dessus, c'est que des fois, on est sollicité par des personnes ou on est en contact avec des personnes qui vont nous faire part de difficultés sur une ferme. Et il ne faut pas hésiter aussi à aller, quand il y a des associés, quand il y a de la famille autour, etc., un peu à aller questionner les personnes qui sont autour. Parce que des fois, il y a une personne qui ne va pas bien, c'est connu dans l'entourage. Et il y a une autre personne qui ne va pas bien, mais qui ne le dit pas, parce qu'elle se dit « Non, mais lui, il ne va déjà pas bien, je ne vais pas en rajouter avec moi, ça ne va pas. » Et parfois, ce sont ces personnes qui n'osent pas en rajouter qui craquent, en fait. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à élargir le cercle et à, quand on a connaissance de difficultés un petit peu poussées, à essayer de voir un peu la famille ou les autres associés, etc., pour savoir où ils en sont, eux aussi, quoi.
Oui, c'est lourd pour toute la famille. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur la situation actuelle?
Bah dans les feux qui passent au orange, mais il y avait peut-être c'est une question de revenus. C'est vrai que en début d'année dernière, les paysans, ils étaient dans la rue pour du revenu, pour ne pas se voir déposséder de la valeur de leur production, en fait. Notamment, je pense à ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle des filières longues, donc c'est-à-dire entre le paysan et là où le produit va être commercialisé, souvent en ayant été transformé. Il y a tout un tas d'intermédiaires. Et là encore, on a des chiffres. On disait qu'avant, on vendait le produit 5 et il revenait 1 à l'agriculteur et qu'aujourd'hui, on en serait plutôt à vendre le produit entre 17 et 20 et il revient toujours 1 à l'agriculteur. Donc en fait, on a une perte de valeur pour l'agriculteur, beaucoup. Hein. Et donc, c'est bien pour ça que les paysans, l'an passé, étaient dans la rue. Et nous, syndicalement, ce qu'on peut constater, c'est que les solutions, on a un premier lot de solutions qui a été, enfin, de soi-disant solutions, pardon, apportées avec la loi d'orientation agricole qui a été signée à l'automne dernier, où en fait, on vous explique que vous aurez des abattements fiscaux si vous vendez votre ferme. Bon, alors a priori, sa ferme, on la vend qu'une fois dans la vie, et puis bien souvent, c'est au moment du départ à la retraite. Donc ça ne va en rien résoudre un revenu mensuel, il me semble en tout cas, ou alors j'ai pas bien compris. De la même manière que sur les ventes d'actifs immobiliers, je vais prendre l'exemple d'un tracteur, bah pareil, des abattements fiscaux, comme ça permet de revendre plus souvent, de racheter, souvent avec les subsides de la PAC hein, pour une catégorie d'agriculteurs. Bon, bah, encore une fois, c'est pas ça qui ramène du revenu dans les fermes. Ce qu'on demande, c'est être rémunéré au juste prix de notre production, avec effectivement des mesures protectrices que pourraient être des prix minimums d'entrée, c'est-à-dire que comment on peut vendre en France des tomates qui viennent de l'étranger à un prix inférieur au coût de production en France. Donc ce qu'on ne demande pas, c'est que les agriculteurs français soient pénalisés. On demande que ces tomates qui arrivent de l'étranger, elles puissent toujours rentrer. Mais elles ne rentrent pas à un coût inférieur. Et ce qui permettrait aussi socialement, dans le pays d'où elles viennent, probablement d'améliorer les conditions des gens qui y travaillent. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais voilà, il y avait des mesures et en fait, on se retrouve avec des réponses qui ne sont pas des réponses. Je ne sais pas, c'est une espèce de pis-aller, on se masque. Mais en tout cas, il n'y a rien sur le revenu. Et on repart cette année avec la fameuse loi Duplong, donc qui fait couler de l'encre, de la salive, bon, mais aussi activer des algorithmes, puisque là, ça a l'air de s'agiter sur les réseaux, puisqu'il y a une pétition qui a été lancée, et le million de signatures ayant été dépassé, ça impose qu'il y a à nouveau un débat à l'Assemblée nationale. Alors, il faut aussi se rendre compte que finalement, ce débat n'a pas vraiment eu lieu, puisque avec la procédure de rejet et de... Finalement, cette loi, elle a été observée en commission mixte paritaire. Eh ben, le débat a effectivement été condamné. Donc, comment ils vont s'y prendre? Bon, toujours est-il, il me semble que le mal est fait, même si tous les recours ne sont pas tout à fait épuisés. Mais là encore, c'est qu'on dit aux paysans, eh ben voilà, on va réintroduire une molécule qui est quand même notoirement connue, qui est mauvaise pour la santé, elle est cancérigène, et ça va vous aider à mieux produire, pour produire entre autres du sucre dont les trois quarts, voilà, au moins la moitié part à l'exportation. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut, ou est-ce qu'on veut produire une qualité de nourriture saine pour assurer une forme d'autonomie en termes de sucre, par exemple, on l'est complètement. Mais il y a une partie du sucre de betterave qui est en fait transformée en éthanol. Est-ce que vraiment on a besoin de réintroduire des molécules dégueulasses pour produire de l'éthanol? Ça, c'est une vraie question. Et là encore, est-ce qu'en fait, on redonne du revenu aux paysans avec ça? Non, on ne l'en donne pas. Pareil pour les noisettes. Aujourd'hui, c'est 90% de la production qui est vendue à Ferrero. Est-ce que on entretient une forme de souveraineté alimentaire avec ça? Non. Donc, c'est compliqué, oui, parce que on a des bestioles là qui arrivent. Encore une fois, avec le réchauffement climatique, on va en voir de plus en plus des nouvelles, tout un tas d'insectes qui peuvent abîmer les cultures. Mais c'est probablement pas en continuant à encourager des monocultures qui en aucun cas créent des couloirs biodiversité, amènent des prédateurs, qu'on va sortir de l'ornière. Donc des molécules, c'est bien, mais c'est quand même en premier lieu au détriment de la santé du paysan, hein, avant même de parler de la population. C'est au détriment de la santé des paysans et après, effectivement, des nappes phréatiques, des écosystèmes et de la population en général. Et là, encore une fois, on n'a pas répondu à la question du revenu. Et la colère, elle ne pourra pas se tasser, en fait, comme ça. Les crises, je pense que malheureusement, va y en avoir de plus en plus, on le dit. Comment on fait pour que les paysans continuent à produire de manière les plus saines possibles, pour eux d'abord, pour les gens qui vont s'en nourrir ensuite? Comment on ramène du revenu dans les fermes? On nous parle de génétique, numérique, robotique. On parle de quoi, en fait? On parle d'investissement. Hein, on parle d'investissement, ça veut dire qu'on parle de quoi? On parle d'emprunt bancaire. Je pense que Fanny, des gens qui croulent sous les emprunts bancaires, elle doit en voir. Et même encore si on n'est pas certainement dans des départements de culture intensive. On a pour nous la chance dans le 04 d'avoir une géographie qui fait qu'on a des exploitations, paysages qui font que on a plutôt des petites ou moyennes exploitations. On n'a pas de très grosses exploitations. La géographie l'empêche, mais on sait qu'il y a des départements, voilà, en Bretagne, c'est pas un mystère, des paysans qui croulent sous l'endettement parce qu'on leur a dit que c'est la course à la nouvelle technologie, mais c'est la course à quel prix, encore une fois. Et là, je pense qu'il y a des paysans qui sont vraiment dans une détresse technologique et en conséquence financière terrible.
Fanny ?
Oui, c'est sûr que... On a effectivement plutôt des petites ou des moyennes exploitations, mais on a, nous, par exemple, des adhérents en arboriculture qui ont beaucoup investi, qui ont accumulé des années de grêle, de problématiques sanitaires et qui se retrouvent avec des endettements très conséquents. Et parfois, on est obligé de les accompagner dans des procédures judiciaires, donc de redressement judiciaire, voire de liquidation quand on n'arrive plus à faire face à un endettement trop important. Et pour rebondir sur le revenu, nous, à l'association, on a une convention avec le conseil départemental. On accompagne des agriculteurs bénéficiaires du RSA. Donc souvent, ça fait un peu... ça surprend les gens que des agriculteurs puissent être bénéficiaires du RSA, parce qu'on a cette image de personnes qui sont RSA parce qu'elles n'ont pas d'emploi, alors que là, en fait, on est face à des personnes qui travaillent, Lorraine nous l'a suffisamment démontré, mais qui n'arrivent pas à se dégager de revenus de leur activité, alors qu'elles travaillent, 70 heures dans la semaine, je donne un chiffre. Et donc ça, c'est effectivement c'est incroyable, ouais. Et dramatique de se dire qu'on est dans ces situations-là. Donc nous, pour le coup, on fait de l'accompagnement individuel. Donc toutes ces questions qui viennent d'être évoquées, elles sont plutôt portées par notre réseau national, par les syndicats, etc. Nous, vraiment, on va accompagner au cas par cas les gens. Donc ça peut être de l'accès aux droits pour des personnes qui ont besoin du RSA mais ne savent pas qu'elles peuvent y prétendre. Toutes ces procédures judiciaires également, de la médiation avec des créanciers. Souvent, on est face à des gens qui sont très seuls. Donc ils n'ont pas été amenés à parler de leurs difficultés à qui que ce soit. On est les premiers interlocuteurs. Et on a aussi ce rapport de force... pot de terre contre pot de fer. Voilà, quand on se retrouve assigné au tribunal, quand on se retrouve avec des retards bancaires, etc., c'est toujours plus facile de faire face quand on n'est pas seul face à ses créanciers. Voilà. Et ça, c'est une de nos missions, de un peu rétablir certains rapports de force et mieux travailler tous ensemble, donc notamment en cellule agrédif, pour œuvrer de manière commune pour essayer d'améliorer la situation des agriculteurs.
Merci, Fanny Fontaine. J'ai envie de dire, bon, évidemment, il y a des attentes de la part du ministère, des hauts placés pour améliorer les conditions de travail et des agriculteurs et de la vie paysanne, mais est-ce que les citoyens peuvent, évidemment, participer à leur petit niveau en achetant directement aux producteurs. Est-ce que ça, c'est en progression que les personnes soient de plus en plus sensibles à acheter local?
Alors, je pense qu'on est un département dans lequel on n'est pas trop mal loti. On a vraiment une croissance. C'est marrant, il y a eu des mouvements. Il y a eu des AMAP d'abord, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui se sont implantées. Et puis nous, on est un département, j'arrive pas à identifier si c'est un mouvement qui est plus large qu'à l'échelle du 04. Mais en tout cas, le 04, il y a des AMAP qui se sont arrêtés. Et finalement, il y a des magasins qui ont un peu pris magasins de producteurs, j'entends. Qui ont un peu pris la suite derrière. Et effectivement, moi, je pense que pour les gens qui ont les moyens aussi, des fois, parce que je reconnais que c'est peut-être pas à la portée des bourses de tout le monde, mais en tout cas, d'aller acheter plutôt à son voisin et plutôt d'une production locale, et puis plutôt des produits à transformer que des produits déjà transformés, évidemment. C'est une vraie action politique. Ça veut dire qu'on entretient un tissu de paysans localement, ça veut dire qu'on fait vivre une ruralité. La ruralité, elle est extrêmement présente dans les Alpes-de-Haute-Provence. Si demain, on a envie de continuer à circuler, je dis n'importe quoi, entre Digne et Fort-Calquier, et de voir qu'il y a des fermes, du coup, qu'il y a de la vie, et pas juste qu'on a des employés saisonniers, parce qu'en fait, au-dessus, c'est détenu par des firmes, des formes sociétaires, dans lesquelles, finalement, il n'y a plus de chef d'exploitation. Ben, qu'est-ce qui fait qu'on aura encore aussi des écoles dans nos campagnes? C'est bien souvent parce qu'il y a des paysans, parce qu'il y a une activité et un tissu qui est dynamique dans les campagnes. Donc, tout est lié, en fait. Alors, on peut rentrer dans un projet politique très vaste, mais si on reste que là, on en reste juste là, oui, effectivement. Aller acheter au magasin de producteurs, à son voisin parce qu'il produit si c'est ça, bah, ça a un sens, on sait d'où ça vient. C'est aussi une forme d'économie qui est circulaire. Elle est née sur le territoire, elle revient sur le territoire, elle n'en sort pas, elle irrigue ce tissu-là. On est peut-être, alors, il y en a qui nous feront passer pour des 12 utopistes. Évidemment, tout le monde ne pourra pas vendre en direct. On doit maintenir des filières longues parce qu'il y a des agglomérations à nourrir, etc. Mais il y a des choses qui peuvent coexister, d'une part, et sur les filières longues, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de rendre du pouvoir que ce 1 qui est en permanence redonné aux paysans, il évolue. On en a besoin de récupérer plus, sinon on ne pourra pas produire toujours au même coût. Les coûts augmentent, et on voit bien, la vie augmente, ben, c'est exactement pareil sur nos fermes. On a besoin d'acheter évidemment, premier titre, du gasoil, mais des emballages, un tas de choses pour notre activité. Et nous aussi, nos coûts, ils augmentent. Et c'est vrai, quand on entend des fois les médias qui se font l'écho des négociations entre la grande distribution et les producteurs laitiers, à qui on a quand même... Moi, j'ai l'impression qu'aussi jeune, je me souvienne, on a toujours l'impression que ça se finit, qu'il y en a un qui tord le bras à l'autre. Et curieusement, c'est toujours le même qui se fait tordre le bras. Et on a quand même... c'est pas possible. Il y a des progrès à faire. On doit encadrer ça de manière beaucoup plus efficace.
Ça va être bientôt le moment de nous quitter. Est-ce que vous voulez redonner des informations?
On va redonner le numéro d'AgriÉcoute. Donc c'est le 09 69 39 29 19. Je répète, 09 69 39 29 19. Il ne faut pas hésiter à les solliciter pour toute situation de mal-être, avancée, pas avancée. Et on peut aussi les appeler quand on constate qu'un proche va mal, en fait. On n'est pas obligé d'être agriculteur pour les contacter.
Merci. Est-ce que vous avez besoin de rajouter quelque chose? En tout cas, merci. J'ai envie de poser la question, mais j'ai l'impression que ça n'existe pas trop. Est-ce qu'il y a des agriculteurs, des maraîchers ou des éleveurs qui, en désespoir, font une reconversion totale? J'ai l'impression que quand on est dans ce milieu, on ne change pas de métier comme ça, malgré les difficultés.
Alors moi, là, effectivement, je n'ai pas de cas qui me viennent. Et pour autant, je pense en connaître. Là, ça ne me vient pas. Mais si on prend juste les chiffres et quand on voit la fonte de la population paysanne, ce qu'on perd entre chaque recensement agricole, alors certes, là-dedans, il y en a une grosse partie qui part à la retraite. Mais il n'y a pas que ça. Après, ce qui peut aussi se passer... Moi, ce que je verrais plus, mais peut-être Fanny, tu auras d'autres exemples, c'est de passer d'une production à une autre. Je vois typiquement des gens qui sont en production laitière, qui est probablement la contrainte la plus forte en termes d'élevage, puisqu'on couple l'élevage, donc le soin aux animaux, avec la traite, la transformation fromagère ou à minima la collecte de lait. Des gens qui vont s'orienter vers plutôt un troupeau viande, où déjà on saute, ça va être des moments de commercialisation qui vont être plus ponctuels dans l'année, un peu moins, une charge de travail un petit peu allégée dans la journée. Je vois un peu des réorientations comme ça, peut-être vers d'autres filières. Moi, c'est ça qui me vient. Mais oui, moi, je suis certaine qu'il y en a qui repartent faire autre chose. Hein. Il y en a qui repartent travailler en chambre d'agriculture. Bon, je pense qu'il y a toujours ce lien qui est là. Ils vont aller donner, bosser dans des associations de développement, à la chambre, en chambre d'agriculture. Il y a tout un tas de choses qui existent. Mais moi, je suis à peu près sûre que ce mouvement, il se fait aussi, malheureusement.
Parfois aussi, il y a des reconversions de personnes quand il y a des séparations. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui se sépare, il y en a un qui va garder l'activité sur la ferme, et il y a l'autre personne qui va partir faire totalement autre chose. Et puis Fanny, j'imagine que tu as d'autres situations.
Oui, moi j'ai des situations parfois contraintes dans des situations de liquidation judiciaire où l'activité s'arrête. Et parfois, effectivement, plutôt sur les jeunes générations, on se rend compte qu'en fait, on n'arrive pas à tout concilier, et que cet équilibre vie personnelle, vie professionnelle, on n'arrive pas à le garder, et donc on se reconvertit. Il y a des aides d'ailleurs à la reconversion, et nous parfois on accompagne des personnes dans ces démarches-là. Et nous, à Solidarité Paysan Provence-Alpes, par exemple, parmi nos salariés, on a deux anciennes éleveuses. Donc c'est aussi une piste de reconversion. Mais effectivement, on a tellement de casquettes en étant agriculteur que je pense que des compétences pour faire autre chose, il y en a à l'appel.
Alors là, on n'en a pas parlé, mais vous êtes quand même trois femmes dans le studio. Je me souviens vous avoir interviewé pour la journée du 8 mars par rapport aux droits. On n'en a pas parlé, mais c'est aussi difficile pour les femmes d'être chef d'exploitation.
Alors moi, je suis chef d'exploitation.
Ouais.
Et mon conjoint, et conjoint collaborateur. Donc voilà, je suis à peu près l'anomalie. Non, il y en a, hein. C'est vrai que c'est pas dans ce sens-là, le plus souvent. Oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'articulation avec la vie de famille qui est compliquée. Parce qu'on, toujours, hein, on a quand même une part de tâches ménagères qui nous revient, étonnamment. Les enfants aussi, surtout quand ils sont petits, je dirais. Après, en grandissant, c'est peut-être autre chose. Il y a aussi des hommes qui vont pas bien, hein. C'est vraiment pas le problème. Mais encore une fois, mais là, je dirais que c'est comme partout dans la vie. Les femmes ont quand même tendance à porter un petit peu plus, il me semble.
Et les femmes sont parfois prêtes à lâcher prise plus tôt aussi. C'est-à-dire que quand ça ne va pas dans l'activité agricole, elles arrivent peut-être plus facilement à se dire qu'elles vont faire autre chose que les hommes qui ont tendance à s'accrocher. Il y a quand même un peu de pudeur sur le mal-être agricole, sur les difficultés financières, etc. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être se dire que les femmes, elles savent peut-être s'arrêter un peu plus tôt.
Sauver leur peau.
Ouais.
Merci donc à toutes les trois. Lorraine Prunet, porte-parole de la Confédération Paysanne des Avocates. Fanny Fontaine, animatrice de Solidarité Paysanne Provence-Alpes. Et Coralie Gauthier, animatrice de la Confédération Paysanne 04. Merci d'être venue nous parler de ce mal-être paysan. Et j'espère donc que vous serez entendues et que les personnes viendront oseront demander de l'aide. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. À la fraîche, au petit matin, le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas le labeur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines, les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. surtout ne te fais pas de mille. On ne va pas trier les lentilles à côté du puits envolé. Avec le coup déjà levé, y aura Jim, notre vedette. On t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.